Écoutez, je vais continuer dans la à louer. C'est moi qui parle, mais tout seul encore, mais pour vous aussi, tous ensemble. Continuons à louer. C'est vrai, Seigneur, nous voulons t'élever. Nous voulons plus que tout aussi que nos vies t'honorent, nos vies soient à la hauteur de ce que tu as fait aussi. Et on sait que tout seul, on aura du mal à être à ta hauteur et on a besoin de toi encore dans nos vies. Et ça, tu nous fais encore la grâce ce matin. Nous l'avons chanté, tu es ce Dieu trois fois saint. Tu n'es pas saint seulement pour toi, tu es saint aussi pour cette terre. Tu es saint aussi pour nos cœurs, tu es saint pour ce monde qui se perd. Et tu veux nous sanctifier, nous aussi. Tu veux tellement ta présence nous inonde. Tu veux, Seigneur, que nos vies soient saintes aussi. Tu veux nous transformer à ton image. Et ce matin, nous voulons nous mettre dans ces conditions où nous voulons recevoir ta parole encore, nous voulons recevoir ce que tu as à nous dire, et nous voulons plus que tout encore t'élever au-dessus de tout, parce que tu es, toi Dieu, le Dieu au plus haut des cieux. Amen. Et au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors nous sommes ce premier dimanche, et on continue la série sur la conquête du pays de la promesse. Et il y a un mois, John donc nous a rappelé la réalité de la promesse qui a été jurée par Dieu aux fils d'Israël. Cette promesse qui a été jurée de leur donner un pays ruisselant et de miel, et puis au fur et à mesure qu'ils le fouleraient, ben ce territoire, ce lieu qu'ils allaient fouler, allait être à eux. Et non seulement ce pays donc allait être devant eux, mais Dieu leur avait donné un ordre clair. C'est de prendre possession de ce pays qu'il leur a donné par avance, à une promesse qu'il avait faite à Abraham. Et ce pays n'était pas seulement là pour qu'ils le voient seulement devant eux, mais il était bel et bien là pour le conquérir. Et donc ce que nous avons vu dans l'attitude du peuple, c'est que cette conquête ne semblait pas emballer trop les Israélites. La parole souligne que seulement deux sont convaincus de cette conquête. Il s'agit de Josué et Caleb. Et même si Josué est persuadé par ce projet, il n'en demeure pas moins que Dieu lui demande à plusieurs reprises de se fortifier et de prendre courage. Ouais, c'est pas évident, parce que même si on est convaincu par une cause, on a besoin de la force que le Seigneur nous donne. Mais on a besoin aussi, de notre côté, d'une discipline pour puiser cette force à la source et pour prendre courage. L'objectif de cette conquête est bien sûr l'occasion pour Dieu d'accomplir une promesse qu'il avait faite donc bien longtemps à Abraham, mais surtout c'était l'occasion de sanctifier le peuple en le mettant à part, donc dans des territoires totalement purifiés de l'idolâtrie. Et donc cette méthode, elle peut nous sembler extrême, mais la conquête, elle devait être totale et l'ennemi devait être littéralement complètement chassé de ce territoire. Je cite juste Nombre 33, verset 55. « Si vous ne chassez pas les habitants du pays devant vous, et ceux d'entre eux que vous aurez laissés deviendront des épines dans vos yeux et des pointes dans vos côtes. » Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. » Donc, il est évident donc, que cette horde de conquête, avec en plus une méthode plus que contestable de chasser les habitants devant eux, peut nous sembler choquante. D'autant plus quand on connaît Dieu, ce Dieu d'amour auquel on a chanté, ce Dieu très haut, qui a demandé à son peuple simplement d'aimer l'étranger qui allait être au milieu de lui. Et on sait que pour Dieu, chaque créature est précieuse à ses yeux. Et puis, on sait aussi maintenant qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais les fils d'Israël ne devaient avoir aucun contact. Ils ne devaient pas tolérer les mélanges avec les peuples étrangers à Israël. Et c'est ainsi que l'Éternel concevez la sanctification, en mettant un peuple totalement à part dans un pays qu'il avait juré de leur donner. Et dans ce sens, tous les peuples de la terre devaient craindre Israël, le moindre de tout le peuple, car l'Éternel l'avait appelé de son nom. C'est comme ça que la parole explique. Alors évidemment, depuis la venue de Jésus et son enseignement sur le sermon de la montagne, les choses ont bien changé. Désormais, le message est bel et bien d'aimer nos ennemis et de bénir ceux qui nous persécutent même. Mais cela n'empêche pas que nous avons aussi, nous, des ennemis à chasser et des combats à mener pour nos vies. Alors bien sûr, notre combat, il n'est pas contre le sang et la chair, il n'est pas contre des hommes, on n'aura pas à prendre des armes. Mais il est contre les principautés et les autorités, avec le diable en arrière-plan qui a semé cette ivrée, donc le péché dans nos vies. Et donc de la même façon que les fils d'Israël devaient évacuer toute idolâtrie qui rendrait Dieu jaloux, l'œuvre de Christ à la Pâque a fait de nous les enfants de Dieu, nous les ennemis du péché. Considérez-vous ennemis du péché. Ainsi le moi, le péché, le diable sont autant d'ennemis que nous sommes appelés à combattre et à chasser de nos vies en Christ pour que ces vies soient saintes et qu'elles soient victorieuses. Dieu est toujours le même. Il est jaloux. Il a en horreur le péché. Voilà pourquoi, par son plan, par son Église, il veut nous mettre à part et nous amener jusqu'au perfectionnement des saints, on l'a rappelé ces derniers temps, et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il nous a amenés, il veut nous amener là, mais on va voir, on y est déjà. Les fils d'Israël avaient le pays promis à conquérir. Et nous, nous avons en tant qu'enfants de Dieu, cette promesse de salut à appréhender dans sa globalité, donc qui va du sacrifice de Christ et jusqu'à ma sanctification complète. Et ça passe par le renouvellement de mon intelligence, qui peut-être prend du temps. Mais en tous les cas, cet renouvellement d'intelligence pour me convaincre que je peux être libéré totalement aussi de ce péché. Ainsi, l'œuvre de salut de notre Seigneur ne s'arrête pas seulement au fait que nous sommes sauvés du jugement final. L'œuvre du salut continue son travail pour nous libérer des péchés et qui sont un obstacle aux victoires que Dieu a en réserve pour nous. Et jusqu'à ce que cela, nous ayons accès à toutes les bénédictions spirituelles les plus improbables. Par le sacrifice de Christ, tout a été accompli, et puis de la façon la plus parfaite et la plus complète qu'il soit. Et son salut donc peut avoir des conséquences pratiques, mais inimaginables, sur nos vies. Dans la mesure où à chaque étape, nous croyons en ses promesses. Et comme les fils d'Israël ont été épargnés du jugement de Dieu, grâce au sang de l'agneau à la Pâque, comme ils ont été délivrés de l'esclavage du Pharaon lors de la traversée donc, de la mer Rouge, et enfin ils se sont engagés dans cette conquête pour chasser l'idolâtrie des peuples et pour consacrer le pays d'Israël à l'Éternel, de la même façon un peu, il y a dans la vie chrétienne des étapes par lesquelles le chrétien doit passer. Ainsi le chrétien accepte en premier le sacrifice de Christ. Et ça c'est le seul moyen de salut. On accepte le sacrifice de Christ comme le seul moyen de salut. Et puis peu à peu, on accepte, on comprend et on accepte d'être délivré de l'esclavage du péché. Et c'est pour ça d'ailleurs que le baptême est là. Le baptême est pour nous le signe vraiment de cet engagement où on veut dire non au péché. Et à la suite de cela, le chrétien peut être prêt pour un engagement total en vue de ce combat spirituel pour lequel il est prédestiné. À chacune de ces étapes, il y a un pas de foi à faire et une décision individuelle à prendre. Ça, c'est ce qu'on peut voir aussi avec le peuple d'Israël. Et ces étapes donc, ne sont pas forcément liées aux circonstances ou aux épreuves de notre vie, mais elles sont là vraiment comme des grâces que le Seigneur nous fait. Ces étapes sont l'occasion de réflexions profondes au sujet du sens de nos vies. Les vies que nous menons, elles sont l'occasion de moments de communion, de prière, ou même de combat individuel avec notre Dieu. Néanmoins, à chacune de ces étapes, nous pouvons rester sur nos positions et refuser la grâce, les grâces que notre Seigneur a en réserve pour nous. Ainsi, un incroyant est tout à fait libre de ne pas accepter le pardon que le Seigneur lui offre gratuitement. C'est triste et c'est très dangereux pour lui parce qu'il y a le risque finalement que la porte soit fermée et ça de façon définitive pour lui. Un croyant peut avoir accepté le salut de Christ pour sa vie et puis il continue finalement à vivre avec cette idée que le péché c'est pas si grave que ça. Et on aime bien ce verset que s'il y a des péchés, ben, la grâce abonde, donc je continue de pécher finalement. Puisque le pardon est là au-dessus de tout. Mais attention. Et donc il pense pouvoir jouer sur ces deux tableaux. Et donc cette attitude est folle, nous dit la parole. Parce que ça, c'est mépriser le sang de Christ par lequel nous sommes lavés de nos péchés. Et c'est triste car il y a vraiment un risque d'être sauvé finalement, comme à travers le feu. Enfin, un croyant peut avoir réalisé cette liberté en Christ et prendre du plaisir à se nourrir de la parole de Dieu, de la communion avec le Seigneur et puis le frère et sœur. Mais aussi, il peut rester là, donc dans cette position confortable, sans trop de remise en cause. Et là aussi, cette attitude n'est pas raisonnable. Car il y a un risque de pratiquer une religiosité, de se tromper de combat et de passer finalement à côté de cette vie abondante promise par notre Seigneur. Cette vie en abondance, c'est d'après Jésus la raison de sa venue. Jean 10, verset 10, on le connaît très bien ce verset, nous dit que Jésus est venu afin que nous ayons la vie, pas seulement ça, que nous ayons la vie, mais que nous l'ayons en abondance. Cette vie en abondance, c'est toute la dimension spirituelle et inimaginable à perception humaine. Ça, on ne peut pas rentrer peut-être avec notre intelligence, cette dimension de la vie que notre Seigneur veut nous faire la grâce de vivre. Et encore ici et maintenant, dans notre environnement hostile, qu'il y a dans ce monde hostile aussi à Christ. C'est entrer dans le ministère du Saint-Esprit, son œuvre de sanctification, avec toutes ces manifestations dont nous pouvons être les témoins, et puis surtout les relais aussi dans ce monde. On le voit très bien, le salut de Dieu ne s'arrête pas au seul fait de croire à la rédemption de nos péchés par le sang de Christ. Il commence là. Mais le salut va jusqu'à croire en Jésus pour faire ses œuvres encore plus grandes que lui. Et ça, c'est comme les paroles de Jésus en Jean 14 nous le dit. Il nous le promet. Verset 12 nous dit qu'on fera des œuvres plus grandes encore que lui. Bien sûr, le salut n'est pas seulement cela, mais le salut englobe toutes ces étapes. Et si nous arrêtons en route, si nous ne vivons pas finalement ce salut de façon complète, tel que le Seigneur l'accomplit, sans rien laisser de côté, eh bien, on ne reconnaît pas finalement que Christ a tout accompli. Et nous doutons même de la capacité du Saint-Esprit à nous renouveler et à nous transformer. Si le plan de Dieu pour les fils d'Israël était bien avant la Pâque, la conquête du pays, le plan de Dieu pour nous, ses enfants, est la vie en abondance, avec toutes ses œuvres préparées à l'avance par lui. Ainsi, le fait d'accepter Christ comme son sauveur nous prédestine à cette vie en abondance, faite de conquêtes et donc aussi de combats spirituels. Donc, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est d'accord de rentrer avec nos deux pieds dans cette vie abondante pour être en bénédiction à notre tour, à notre monde? Donc, nous voyons bien que, quelle que soit l'étape où nous en sommes, eh bien, nous sommes devant un engagement à prendre qui nous fait avancer dans notre vie chrétienne. Cet engagement à prendre, cela équivaut à ce chemin étroit qui mène à la vie sur lequel notre Dieu Sauveur nous invite à marcher. Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Ça, c'est un verset qui me trouble. Et c'est une question, franchement, que je me suis souvent posée. Pourquoi il y a si peu de chrétiens? Pourquoi les cœurs sont durs? Pourquoi cette porte qui mène à la perdition est-elle large, alors que celle qui mène à la vie est étroite? Évidemment, peu trouvent ce chemin et cette porte, car la porte large, elle s'offre Naturellement, elle se franchit sans difficulté. Elle donne accès à ce chemin spacieux où il y a une foule en plus qui est là, qui nous attend avec sa pensée unique, et ce qui tend à rassurer tous ceux qui s'y trouvent. Pourtant, le poteau indicateur de ce chemin oriente bel et bien vers la destination perdition. Pour Jésus, le chemin qui mène à la vie est resserré. Et Jésus est lui la porte. Il est le seul moyen par lequel nous avons la vie, et il est le chemin qui nous amène à la vie éternelle. Si cette porte est difficile à trouver, c'est qu'il faut abandonner notre propre justice, car son accès est bordé seulement et seulement de la grâce de notre Seigneur. Alors on comprend aisément cette parabole dans le contexte des incroyants qui n'acceptent pas le salut gratuit de Christ, mais pourtant ces paroles, Jésus les adresse à des croyants de nom, qu'il exhorte à sortir des sentiers battus pour s'engager étape après étape sur ce chemin resserré. Comme pour les fils d'Israël ou à la Pâque, la porte sur laquelle était appliqué le sang de l'agneau était étroite, ou comme le passage à travers la mer Rouge, ou encore le chemin de la traversée de le Jourdain, c'était étroit, il n'y avait pas 36 passages. Pour nous, le chemin qui mène à la vie abondante est resserré, et il y en a peu qui le trouvent. Et donc, en étant conscient de la chose, nous pouvons donc encore compter sur la grâce de notre Dieu et crier à lui pour qu'il, franchement, mais honnêtement, qu'il ne nous laisse pas laisser passer à côté de la bonne porte. Ou encore même qu'il ne nous laisse pas croire que nous sommes sur le chemin étroit alors que nous sommes au large. Évidemment, nous avons aussi notre part à faire en mettant nos deux pieds dans cette vie abondante. C'est le sens là des paroles de Jésus. Il faut savoir que ce chemin n'intéresse pas les foules. Et la plupart des croyants ne le choisissent pas non plus, car son étroitesse n'est guère engageante. Nous n'avons qu'à voir quel petit nombre nous sommes ce matin en comparaison de toute la population du Pays de Gex. Il faut dire, mais quelle idée de venir dimanche après dimanche pour se faire sermonner. Bon, heureusement tu nous l'as rappelé, on ne vient pas pour ça, on vient pour louer le Seigneur. Amen. Et encore, parmi nous, combien sommes-nous à avoir des moments de méditation et de prière réguliers pendant la semaine? Ou encore parmi ceux-là, combien il y en a qui mènent des combats spirituels dans le veille, dans le jeûne? Mais c'est un constat qu'on fait tous. Mais bel et bien, au fur et à mesure que nous progressons sur ce chemin, le nombre de ceux qui s'y engagent se réduit de plus en plus. Alors, bien sûr, le nombre, ce n'est pas un critère de qualité. Ça, c'est souvent nous, en tant qu'humains, c'est le critère qu'on aime bien voir. On est nombreux, ah chouette. Mais l'objectif, vraiment, des paroles de Jésus, c'est nous encourager de façon individuelle et en communauté à persévérer vraiment dans cette vie abondante. En quelque sorte, moins nous sommes nombreux, plus c'est une confirmation que nous sommes sur le chemin étroit et que les combats sont rudes et les victoires sont acquises. Josué avec Caleb, ils ont dû éprouver cette solitude dans leur conviction. Et combien ils ont reçu de la part de l'Éternel d'encouragement à se fortifier et à prendre courage. Dans Josué 18 au verset 2, Dieu interpellait les fils d'Israël. Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous a donné? Alors, de la même façon, moi je reçois cette interpellation par jusqu'à quand j'hésiterai à mettre les deux pieds dans cette vie de victoire que nous avons, alors que nous avons été créés en Jésus-Christ pour ses bonnes œuvres, pour cela, parce que tout cela a été préparé à l'avance par lui, et en plus par lui pour que non seulement ils ont été créés, mais en plus pour que nous les pratiquions. Comme ça que nous dit ce verset d'Éphésiens. Il y a ce verset que bon, on connaît bien, mais gravez-le ça quelque part au plus profond de votre être. Romains 8, verset 37 nous dit « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Alors, s'il y en a encore qui s'interrogent sur ce que signifie ce passage du Jourdain pour nous, ben c'est juste cela, justement cela. Mettre en pratique toutes les promesses de victoire tout en renonçant à nos propres critères de réussite. Il ne peut pas y avoir de victoire s'il y a encore quelques onces de notre propre volonté cachée. On le verra dans les mois à venir, mais le peuple d'Israël, ça, l'a appris aussi à ses dépens. Traverser donc le Jourdain pour le chrétien, c'est se charger de sa croix. Comme les sacrificateurs se sont chargés de l'arche de l'Alliance après s'être sanctifiés, traverser le Jourdain pour nous, c'est renoncer à soi-même et aux péchés qui peuvent être autant d'obstacles aux victoires promises. Traverser le Jourdain pour nous, c'est endosser la vie du disciple. Ça, c'est Brillant qui nous l'a rappelé dimanche dernier. C'est trouver ce chemin resserré, peu fréquenté, qui mène à la vie. Conquérir le pays promis ne veut pas dire que cela va se faire sans hésitation et sans résistance, loin de là. Alors que veut dire prendre possession de ces promesses? Alors nous pouvons vraiment nous imaginer aussi ce que cela a été pour les Israélites, lorsqu'ils se trouvaient devant des obstacles insurmontables. Et pour nous, de la même façon, nous pouvons être déçus ou désespérés de jouir un jour de notre héritage d'enfants de Dieu parce que les obstacles de nos vies sont trop élevés. Mais malgré ces obstacles, quels qu'ils soient, Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dieu le répète, Josué 1, dans verset 3, il le répète à Josué, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Donc, c'est clair, il foule, c'est donné, il ne foule pas, ce n'est pas donné. Donc, le simple fait de ne pas fouler le pays, c'était le seul obstacle à la conquête et à l'accomplissement de la promesse, malgré que le pays ait bien été donné à l'avance. Donc, on touche bien là du doigt que la réalité des promesses de Dieu est toujours vraie, mais que l'arrêt du peuple dans le désert empêchait les Israélites de le mettre en œuvre. Le fait que nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ est aussi une promesse vraie pour le chrétien. Et de la même façon, si nous ne décidons pas de nous en emparer, nous ne pourrons jamais connaître cette vie de vainqueur. Comme nous l'avons vu, dans toutes les étapes de la vie chrétienne, il y a d'un côté le pas que Dieu fait vers nous, ça c'est sa grâce, c'est le cadeau qu'il nous fait, et d'un autre côté, le pas que nous faisons vers lui. Et ça, c'est notre obéissance et notre réponse à son appel. Et nous voyons donc bien que, là, quel est le principal obstacle dans notre cas? C'est notre désobéissance qui peut être motivée par nos peurs, notre scepticisme ou nos craintes. Mais que sont ces obstacles-là devant la puissance de notre Dieu? Ils ne peuvent pas quand même bloquer indéfinitivement notre vie chrétienne. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui, dès notre conversion, a ressuscité notre esprit. Une fois qu'on donne notre vie à Christ, notre esprit est ressuscité. Il vit, il n'est plus mort. Et donc, ce Saint-Esprit qui, peu à peu, donc, au rythme des étapes de notre vie, aide notre âme à conquérir les territoires qui sont occupés par notre chair. Et comme le dit Paul aux Galates, il y a une opposition continue entre les désirs de l'esprit et ceux de la chair, et jusqu'à ce que la chair soit crucifiée avec ses passions et ses désirs. Traverser le Jourdain pour nous, c'est ne pas négliger prendre possession de ce que nous avons reçu de Christ. C'est ne pas négliger le Saint-Esprit qui nous a promis. Et c'est s'emparer concrètement des bénédictions spirituelles qui découlent de cette vie que Dieu nous fait déjà hériter maintenant. Désormais, c'est commencer de vivre pleinement et sereinement en tant que nouvelle création, ce que nous sommes réellement en Christ. Ce n'est pas seulement une quête spirituelle, car c'est bien vraiment tout notre être, corps, âme, esprit qui sont concernés et qui doivent s'emparer de ce qui nous appartient déjà. Oui, nous pouvons être surpris par notre réaction timide devant tout le potentiel là qui se découvre devant nous. Mais comme Josué, on a besoin de se fortifier, on a besoin de prendre courage avant de nous lever. Oui, nous sommes plus que vainqueurs. On n'est pas seulement vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Ça peut prêter à sourire, ça. Mais c'est révélateur. La victoire dans nos vies est complète. Elle est accomplie. Et rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et ça, ne faisons pas comme si ce n'était pas vrai. Prenons possession de cette victoire que Christ nous a acquise. Peut-être on a encore du mal à discerner. Nous voyons cela de loin, de façon obscure. Même Paul y dit, peut-être comme à travers un miroir. Mais demandons à notre Seigneur vraiment qu'il fasse tomber les écailles de nos yeux. Dans le récit de la traversée, dans le chapitre 3 de Josué, juste avant le départ, l'ordre était de voir, vous verrez l'arche de l'Alliance. Puis après, vous partirez et puis vous mettrez en marche. Et j'aime bien cette idée de voir. On ne peut pas partir comme ça si on ne voit pas. On peut pas un bateau ne peut pas se diriger s'il ne voit pas le cap sur lequel il doit aller. Donc nous pouvons donc nous mettre en marche vers la conquête de nos vies seulement si nous voyons notre position de plus que vainqueur que nous avons en Christ. À partir de là, qu'importe si le chemin est étroit et peu fréquenté. Ce qui compte, c'est que nous fixons notre regard sur Christ et que nous nous chargions aussi de notre croix. Quelle que soit l'étape où nous en sommes dans notre vie chrétienne, Christ a tout accompli. Et ça, c'est sa partie. Il a fait sa part, et de façon la plus complète. Mais sans notre engagement, puis notre consécration, il manque quelque chose. Nous ne pourrons pas atteindre la maturité chrétienne à la mesure de la stature parfaite de Christ, à laquelle nous sommes tous et chacun prédestinés. Ce que nous touchons là du doigt ce matin, c'est un peu toute la grandeur du salut de Dieu, avec sa capacité que ce salut a de nous transformer dans nos vies et pour faire de nous vraiment des chrétiens qui soient matures. Ça, on verra dans les mois futurs, mais sachez que ce n'est pas la finalité en soi. Bien sûr, on a besoin d'être mature. On est encouragé, on est exhorté par la parole. Et Paul, il s'est acharné à nous convaincre de ça, qu'il fallait que nous soyons des chrétiens matures. Mais ce n'est pas la finalité. Le Seigneur n'est pas venu seulement pour venir transformer nos vies, même si c'est une œuvre énorme. On voit quelles difficultés cela prend, comme c'est dur. Mais rendez-vous compte que le Seigneur est venu pour transformer aussi le monde. Et pour transformer le monde, il a besoin d'avoir des hommes ici, des témoins qui ont eux-mêmes leur vie qui est transformée. Alors ça, c'est une étape suivante. Il y en a plein d'étapes dans la vie. Alors voyons, on avance avec les anciens. On aimerait que tous ce message nous imprègne. Il y a à la fois cette immense richesse, mais comme on l'a rappelé ce matin, cette grandeur de Dieu qu'on a du mal à rentrer, à s'approcher. On a besoin que nos écailles tombent, on a besoin de voir ça, de voir qui est Dieu vraiment. Mais on est là aussi, le Seigneur nous a choisis. Comme on l'a rappelé, c'est notre raison de vivre, l'adorer, mais aussi le Seigneur est venu pour transformer le monde. Alors c'est peut-être une mission qui nous échappe complètement. Mais on est là aussi pour ça. Alors, on se pose des questions, je vous dis honnêtement, avec les anciens. On a besoin peut-être de se faire interpeller. On a besoin de recevoir un appel. Rassurez-vous. Préparez-vous. Il y aura un appel. Il va falloir se lever un jour. Mais avant, prenons le temps de voir ce qui est devant nous. De voir cette arche qui se déplace. Donc c'est cette croix, c'est Christ qui nous ouvre le chemin, ce chemin qui se rétrécit peut-être de plus en plus, mais qu'importe. Je vous invite là juste à un moment peut-être de recueillement. Je prierai pour terminer, mais que chacun se place devant Dieu, voit où est-ce que nous en sommes. Vous savez, on n'est pas... Faisons abstraction de nos niveaux, de chacune des étapes dans lesquelles on est. On peut être surpris de savoir ceux qui sont peut-être plus devant sur ce chemin resserré que ceux qui sont à l'arrière. n'est pas le problème. Le nombre non plus n'est pas le nombre, mais c'est ce que Christ fait pour chacun de nous. Mais notre Père, nous sommes émerveillés de voir comment tu prends soin de nous, comment ton plan qui est parfait dans sa globalité, comment tu as un mot, tu as une attention, une façon de nous parler, de nous toucher chacun individuellement, et quel que soit au niveau, à l'étape où on en est. Mais tu vois aussi combien ce monde est hostile, et ce matin nous voulons encore te demander de nous aider dans ce monde hostile, à fixer, à élever nos regards sur toi, à te voir toi, fixer nos yeux sur toi, au lieu de voir la difficulté, le problème, le péché qui nous entoure, mais nous voulons surtout voir la victoire. Cette œuvre que tu fais en chacun de nous, tu veux la rendre parfaite, et nous avons besoin encore de ça, de nous l'approprier, de nous emparer de ces vérités. Et Seigneur, tu nous mets sur ce chemin et on ne peut pas t'empêcher de prier aussi pour ce monde pour lequel tu nous as envoyé, pour que nous soyons ses témoins. C'est encore tout un autre travail, toute notre œuvre. Et toi, tu l'as fait avec ou sans nous, ça, ce n'est pas le problème. Mais en tous les cas, tu serais réjoui et nous serions réjouis encore que tu nous trouves dignes de combattre à tes côtés pour ce monde. Oui, nous voulons simplement, humblement nous mettre devant toi. Tu vois que nous avons besoin de découvrir cela, de réapprendre, de te connaître toujours mieux. Et nous voulons simplement nous attendre à toi. Nous voulons décharger nos faiblesses, nos peines, nos craintes, nos doutes. On veut le laisser ici à la croix pour que ce soit toi qui t'en occupe, mais simplement que nous soyons frais et disposés pour toi. Oui, sois encore en bénédiction pour nous ce matin et pourtant ces semaines, ces mois qui suivent, parce que tu nous mets sur ce chemin étroit. Et bien sûr que tu veux nous bénir et nous sentons que cette grâce par le Saint-Esprit qui coule en chacun de nous et qui nous fait du bien. Nous voulons encore te louer, Père, pour tous tes plaisirs, les bontés que tu nous donnes. Et te louer, bien sûr, parce que nous te voyons tel que tu es, ce grand Dieu qui s'est abaissé, qui s'est approché de moi, qui s'est approché de chacun de nous pour vraiment pour nous faire toucher du doigt ces immenses richesses que tu en réserves. Oui, sois béni, sois loué, Père, et nous voulons encore, c'est vrai, te prier pour qu'il n'y en ait aucun vraiment qui reste, qui loupe cette porte au tout début de leur parcours. Et qu'après nous continuons à suivre ce chemin resserré. Je prie tout cela, Père, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, s'il y en a vraiment qui ont besoin, qui ont envie de parler, qui ont quelque chose à cœur, n'hésitez pas à venir voir les anciens. Voilà, c'est un travail que peut-être qu'on doit faire tous ensemble et nous encourager. Et voilà.
Bonjour, je partage avec vous les annonces de la semaine. Demain, donc pas mercredi ni jeudi, demain c'est la chorale et la chorale va se réunir à Saint-Genis pour la première répétition en commun entre les deux chorales du CEP et de Saint-Genis. Voilà. Mardi 7, l'étude biblique. La suite, donc les études bibliques en ce moment sont basées sur le livre « Connaître Dieu » de James Baker. Et puis demain, ça va être le chapitre 4, après-demain, ça va être le chapitre 4 qui sera le sujet de la rencontre. Alors, c'est intéressant parce que ça va dans la suite aussi de ce que Pierre nous, de ce que Pierre nous développait. Et puis là, il est question de connaître Dieu, non pas de façon théorique, non pas de façon cérébrale, non pas dans la tête, mais de faire passer cette connaissance dans le cœur, et tout particulièrement au niveau de la relation avec Dieu. Et donc, on est pour le coup tous concernés. Alors voilà, on est tous invités à notre étude biblique de mardi. Normalement, elle se tient en bas, mais si on vient tous, on pourra la faire en haut, il n'y a pas de problème. Jeudi, la pastorale se rencontre. Merci d'y penser aussi. Oui ?
Normalement, tout le monde aurait dû recevoir
oui.
Par email.
Juste.
Reçu,
moi, je ne comprendrai pas. Ouais. Si quelqu'un n'a pas reçu le scan du bouquin pour le chapitre 4, faites-nous nous le savoir, on vous le renvoie. C'est quand même bien que chacun l'ait lu avant de venir. Ça permet d'avancer plus vite et d'avancer plus en profondeur aussi. Samedi, groupe de jeunes. Attention, ce n'est pas à 20h, c'est à 17h30.
C'est à Echnevet pour ramasser les châtaignes.
Voilà.
C'est une tenue appropriée pour aller dans les bois.
Dimanche prochain, donc le culte à 10h30 ici, comme d'habitude. Le mardi de la semaine d'après, donc, il y aura le théâtre de la Marelle. Donc, pour le coup, on a permuté avec la rencontre des cellules. Donc, les cellules, ce sera la semaine d'après. Donc, pour le théâtre de la Marelle, il y a toujours besoin d'un coup de main pour décharger le camion avec tout le matériel, donc leur scène, leur décor, etc. Si vous avez de la disponibilité en fin d'après-midi assez tôt, ça va être vers les 16h, merci de me le faire savoir. Et puis, il y aura besoin aussi de personnes pour recharger après le théâtre. Donc. Concernant le thé café, c'est quand même sympa de se retrouver avant le culte, de partager une tasse de thé ou de café, de manger une petite bricole. Alors, Pierre-Alain et Valérie qui font ce travail depuis déjà quelques années, ont besoin de renfort. Alors, ils ne vont plus faire les cinquièmes dimanches. Alors, si quelqu'un se sent appelé à cela, qu'il nous le fasse savoir ou qu'il contacte directement Pierre-Alain et Valérie, ça ne représente pas beaucoup de rencontres les cinquièmes dimanches dans l'année. Il y en a trois ou quatre. Mais c'est important aussi de partager cela entre plusieurs personnes. Donc, n'hésitez pas, si vous vous sentez appelé à ça, si vous sentez que c'est utile pour l'Église, n'hésitez pas à vous engager là-dedans. On va refaire aussi, on vous propose une nouvelle série de parcours baptême qui aura lieu en novembre. Donc, si vous n'êtes pas encore baptisé, si c'est un sujet qui vous travaille, vous êtes bienvenue, c'est pour vous. Voilà. On vous précisera, ce sera, je pense, trois jeudis dans le courant du mois de novembre. Une autre petite information, avant le culte, je pense qu'une bonne partie le savent, mais une certaine partie ne le savent pas, il y a une petite réunion de prière qui se tient le dimanche matin avant le culte, environ de 10h10 à 10h25. Alors, deux, trois petites précisions par rapport à ça. Déjà, cette petite réunion de prière n'est pas réservée à des personnes précises ou à des personnes qui sont plus ou moins que d'autres. Elle est ouverte à tout le monde. Par contre, le but de cette petite réunion de prière, c'est de remettre le culte à notre Dieu. Donc, c'est vrai que la plupart du temps, les personnes qui participent au groupe de louanges, ce dimanche-là, y participent. Souvent, un ou deux anciens y participent aussi. Si vous voulez, vous pouvez y participer. Chacun peut y participer. Le but n'est pas cependant qu'il n'y ait plus personne dans la salle puis qu'il y ait tout le monde à prier pour le culte. Le but est aussi que l'Église fonctionne au mieux. Et les moments avant le culte sont aussi importants pour qu'on puisse se saluer, se rencontrer, partager, échanger. Voilà. Alors, je ne sais pas, peut-être que quelques personnes ou peut-être que quelqu'un se posait une question par rapport à ce temps-là. Voilà comment ça se passe et voilà un petit peu le pourquoi et le comment. C'est pas le but de d'échanger sur tous les sujets dont on pourrait avoir. Pour cela, il y a d'autres moments, mais le but, c'est vraiment de remettre le moment de culte. Concernant la gestion et l'organisation de l'équipe de louanges, là, il y a un changement. C'est maintenant Craig et Mélodie qui ont repris le flambeau. Donc, si vous jouez d'un instrument que vous voulez vous joindre au groupe de louanges, c'est à eux qu'il faut en parler. Si vous voulez aussi participer d'une autre façon, contactez-les. C'est maintenant eux qui ont pris cette responsabilité. J'aimerais vous dire aussi que suite à notre réunion de membres de mardi passé, concernant les commissions, le conseil, bien sûr, est à disposition. Si vous avez une question, si vous voulez partager, si vous voulez... si vraiment vous avez quelque chose, n'hésitez pas. Ça sert aussi à ça d'avoir un conseil. Je vous invite à vous lever pour un dernier verset que je vais vous lire. Alors, j'ai choisi un verset, le dernier verset du psaume 13. Le psaume 13, c'est un psaume de David, et ce verset, il commence par moi. C'est donc David qui parle à Dieu. Et moi, je vous invite ce matin à vous identifier à ce que David disait à Dieu. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Amen. Bonne semaine. Merci.